Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi, nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Michael, aujourd'hui notre émission est consacrée à un grand poète, Bialik.
Chaim Nachman. Oui, Bialik, c'est un très très grand poète qui s'est, je ne sais pas s'il s'est auto-déclaré ou si on l'a déclaré un peu comme Victor Hugo, poète national.
D'Israël.
Poète national d'Israël. C'est assez curieux parce que quand on regarde la biographie de Bialik, il a finalement vécu assez peu de temps en Israël.
D'accord. Il est arrivé quand en Israël ?
Il est arrivé très tard.
D'accord.
Il est né en 1873 et il est décédé en 1934 à Vienne. Et en fait, il est venu s'installer en Israël en 1924.
D'accord. Donc, ah, en effet,
donc
oui.
Donc relativement tard. D'ailleurs, quand il est arrivé, il était déjà le poète national.
Donc c'est mieux. Pratique.
C'est plus pratique. C'est effectivement quelqu'un qui est probablement, peut-être avec Agnon et avec Ben Yehuda, dont on en a déjà parlé, la personne qui a peut-être révolutionné, je dirais, la littérature, la culture hébraïque moderne, avec d'autres gens dont il était proche, comme Ahadam. Et sans aucun doute, le poème qui est le plus marqué, je dirais, la culture israélienne moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant en Israël qui ne connaît pas Bialik. Bialik, ce sont des chansons pour enfants qu'on
D'accord.
apprend dès le Gan Yeladim, des jardins d'enfants, à l'école. Ce sont des poèmes qui brassent, je dirais, un ensemble de sujets. C'est une œuvre monumentale sur le plan aussi de la quantité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de poèmes, de textes. Il a été aussi à l'origine de ce qu'on peut appeler, disons, la vie littéraire, la vie de cette ville de Tel Aviv, dans laquelle il y avait des cercles de littérature, dont il a été un des animateurs, un des fondateurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la culture israélienne, qui a une personnalité particulière, pas forcément toujours sympathique.
Tu vas nous raconter ça.
Voilà, quelqu'un qui a eu... une vie avec des non pas des déboires, mais disons avec des divergences, des discussions, des vrais appels à certains moments de contestation contre des dirigeants, contre d'autres poètes ou d'autres écrivains, quelqu'un qui était au cœur, je dirais, de la culture hébraïque moderne et qui d'un autre côté était aussi finalement un enfant du shtetl, quoi, un enfant de ce monde des yeshivot. Donc la vie de Bialik est intéressante et curieusement, ce statut de poète national lui a donné même la possibilité d'avoir deux rues à Tel Aviv.
Quelle chance il a.
Je crois que c'est peut-être le seul écrivain au monde qui a deux rues dans la même ville. Alors il y a une rue Bialik, que je vous invite tous à aller dans cette rue, qui est une toute petite rue, mais qui est absolument magnifique, où il y a la maison du peintre Rubin qui est juste à côté et la maison de Bialik qui a été conservée, qui est une maison qui lui avait été donnée à l'époque lorsqu'il s'est installé en Israël en 1924 et qui servait en fond de salon littéraire à cette époque. Et puis il y a une autre rue dont les gens ne savent pas à Tel Aviv qui s'appelle Shderot Ren, qui est le boulevard Ren. Mm-hmm. Et en fait Ren c'est Chaim Nachman, ce sont les initiales de
D'accord.
son prénom. Et c'était la deuxième rue de Bialik qui se trouve près du théâtre Abima, qui relie en fait le théâtre Abima jusqu'à la place Rabin, où se trouve la mairie de Tel Aviv.
D'accord.
Donc c'est un petit boulevard assez sympathique, au cœur de Tel Aviv. C'est assez curieux. Bien évidemment, il avait cette maison à Tel Aviv, mais il ne se plaisait pas beaucoup dans cette maison, donc à un moment, il vivait en fait à Ramat Gan.
C'est bien pour le poète de Tel Aviv.
Voilà. Chaim Nachman Bialik est quelqu'un qui a évidemment révolutionné je dirais la poésie et la littérature hébraïque moderne, Je voudrais, comme on le fait parfois dans nos émissions, donner à nos auditeurs une bibliographie, parce que je crois que c'est justement un auteur qui a la chance d'avoir eu une biographie en français, mm-hmm. absolument remarquable, écrite par Ariane Ben-David, qui est professeur à la Sorbonne, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Chaim Nachman Bialik, la prière égarée », aux éditions Aden, un livre qui est paru... il y a quelques années, qui est vraiment un livre extrêmement détaillé, qui détaille non seulement la biographie de Bialik, mais également certains textes. Ariane avait traduit en français des poèmes de Bialik en 2002 et en 2004. Et là, cet ouvrage qui a été publié en 2008 fait vraiment à la fois toute la vie de Bialik, mais également la vie intellectuelle de ce monde juif, à la fois qui est en train de disparaître en Europe de l'Est, mais également le début de ce qu'on peut appeler la culture hébraïque moderne. Voilà, donc Bialik, c'est quelqu'un qui est incontournable et qui en même temps représente, je dirais, c'est une figure qui représente ce qu'a été le sionisme dans des années de sa création, c'est-à-dire des années, disons, 1880 jusque les années 30. C'est vraiment les 50 années de Bialik, sont les 50 années où le sionisme va se forger en tant que non seulement réalité politique, mais aussi réalité culturelle, réalité dans la vie des gens. Il représente justement ce passage du monde ancien, d'une certaine façon, le monde des yeshivot, dans lequel il est élevé, jusqu'à le Tel Aviv que nous connaissons d'une certaine façon, c'est-à-dire le Tel Aviv moderne, avec la modernité, avec la vie des écrivains telle qu'on pouvait la voir dans les années 30, un petit peu des cercles littéraires, de ces salons littéraires où on parle de choses et d'autres, où les gens mènent une vie, je dirais, relativement, appelons ça laïque, pour ne pas appeler ça autrement. Et cette cohabitation entre ces deux mondes cohabite au fond dans Bialik, à la fois plusieurs cultures, c'est-à-dire que Bialik est quelqu'un qui écrit dans un hébreu, qui a révolutionné la langue hébraïque.
C'est-à-dire qu'il a commencé à écrire en hébreu alors qu'il était toujours en Europe.
Oui, mais que sa langue maternelle était le yiddish, mm-hmm. et qu'il a, il est né dans une petite ville en Volhynie qui s'appelle Radi. Mais assez rapidement, à l'âge de 5 ans, sa famille s'installe à Jitomir, c'est un endroit où il y a des yeshivot, et donc il va aller au cheder, ce qu'on appelle l'école traditionnelle des petits-enfants. Mm-hmm. Lorsque son père décède, il va aller chez un oncle, habiter chez un oncle, là où il fera sa bar mitzvah, et il entre dans cette fameuse yeshiva lituanienne de Jitomir, qui est très très connue, où sont sortis de grands chachamim. Et il va être finalement un élève de cette tradition profondément ancrée dans le judaïsme traditionnel. Donc il est à la fois la modernité de l'hébreu moderne, mais aussi le monde ancien. Et donc cette coexistence, cette cohabitation entre ces deux mondes-là, c'est finalement ce qu'a été le sionisme moderne. C'est le résultat du sionisme moderne. Bien sûr, il va d'une certaine façon tourner le dos à l'orthodoxie, mais il ne va pas tourner le dos à la culture hébraïque. Et donc, il sera à l'origine de certains textes dans lesquels, justement, il constate la ruine, la disparition de ce monde. Il voit aussi les pogroms. Il écrit sur ces graves persécutions dont on souffre le peuple juif. Et il arrive en Palestine, donc, pour s'y installer. Il est très sioniste, mais je ne veux pas dire qu'il y arrive contraint et forcé, mais finalement, il a un peu pas le choix à certains moments. Il se retrouve finalement en Europe où l'antisémitisme monte, et donc il se rend compte qu'il faut qu'il réalise ce rêve de devenir finalement un écrivain de l'Israël moderne. Alors, Bialik, à la sortie de la yeshiva, va dès 1891, donc il est né en 1873, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, il va participer à la fondation d'un mouvement sioniste clandestin qui s'appelait le Netzach Israël, dont on a déjà parlé.
Et tu peux nous expliquer pourquoi il passe justement de ce monde des yeshivas au monde des sionistes qui sont...
Ah ben je crois qu'il vit dans une réalité assez violente, où il y a de l'antisémitisme. Il comprend parfaitement... D'accord. la nécessité d'une renaissance culturelle de l'hébreu. Il pratique l'hébreu, il va quitter la yeshiva, et dès l'âge de 18 ans, il commence déjà à publier des articles dans la revue qui représentait ce mouvement des amants de Sion. Il publie déjà un très grand premier article qui parlait de l'idée d'implantation. De pourquoi s'implanter, pourquoi créer des Yishuvim en Palestine. Il y fait la connaissance de deux personnes qui vont influencer toute sa vie. Une, c'est Hadam, dont on a déjà parlé, qui est un grand penseur sionite à qui il sera extrêmement lié et ils vont être amis et proches tout au long de leur vie. Et également une autre personne qui s'appelle Ravnitsky. Mm-hmm. Ravnitsky, c'était un talmid yeshiva, comme lui, avec lequel il va écrire un des très grands livres de la littérature hébraïque moderne qui s'appelle le Sefer HaAgada, c'est-à-dire le livre des Agadot. On pourra y revenir, on reviendra tout à l'heure sur cette idée, mais c'était, au fond, on pourrait appeler ça, les contes et légendes du judaïsme. C'est toute la tradition des Midrashim et des Agadot qui sont issus du Talmud et de tout ce monde-là sous forme de textes littéraires, de petits textes littéraires. C'est un travail colossal qu'ils ont, un travail de faire ce recueil de toutes ces... C'est absolument colossal, ce travail qu'ont fait Ravnitsky et Bialik. À l'âge de 18 ans, il va publier également son premier poème qui s'appelle « À l'oiseau », dans une petite revue qui s'appelait Pardès. Et ce poème, tous les enfants d'Israël le connaissent.
C'est vrai.
Que c'est un poème, c'est un peu naïf comme ça, mais c'est un très beau poème. En 1890, va décéder quelqu'un qui a été, avant Bialik, le poète phare de cette période, qui s'appelait Yud Leib Gordon. Mm-hmm. Et donc, Bialik va rédiger à 19 ans, il va être celui qui rédigera l'éloge funèbre de Gordon. À cette époque, comme c'était le cas dans les communautés juives, on faisait des chidourim. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un marieur vient voir sa famille. Lui, il a perdu son père très jeune, donc vient voir son oncle et sa mère. Et donc, on lui propose un chidour. C'est-à-dire, on lui propose de se marier avec une femme, une jeune fille, qui s'appelait Mania Averbourg. Et Mania Averbourg va être sa fiancée. Ensuite, il va l'épouser. Le 18 mai 1893, il épouse Mania Averbourg. Et son beau-père, qui était dans le commerce du bois, la charpenterie, des choses comme ça, décide de le faire entrer dans son magasin pour travailler. Bon, apparemment, il n'était pas très, très doué pour le commerce, Bialik.
C'est marrant, ça ne m'étonne pas du tout.
Ah bon? Bon, et curieusement, le couple Bialik n'ont jamais eu d'enfant. Ils n'ont jamais eu d'enfant. C'était un mari assez distant. C'était quelqu'un qui avait une certaine froideur, dont Mania se plaint. Mania Averbourg a vécu jusqu'à un âge très avancé. Elle est morte, je crois, en 1974, pardon. C'est-à-dire bien longtemps après Bialik. Elle lui a survécu. Bon, il n'a pas non plus été toujours très fidèle, mais comme on dit, cela ne nous regarde pas. Même si, curieusement, lorsqu'on a voulu garder la maison de Bialik et qu'on a gardé dans la maison de Bialik qu'on peut visiter, c'est très intéressant. Il y a tous les papiers, il y a tous il y a des manuscrits, etc. On a gardé toutes ces correspondances de Bialik, mais le conservateur qui s'appelait Ungerfeld a bien caché un certain nombre de lettres. Jusqu'à la mort de Mania Averbourg, beaucoup de lettres qui avaient été échangées entre Chaim Nachman Bialik et une de ses maîtresses, notamment, qui s'appelait Ira Yan, qui était une artiste peintre et qui vivait à Jérusalem, qui lui écrivait des lettres enflammées. Curieusement, ces lettres étaient cachées, n'ont été découvertes. Et lorsqu'on posait la question à Ungerfeld sur l'existence de ces lettres, il disait toujours non, elles ont disparu, elles ont été brûlées, etc. Mais finalement, elles étaient cachées, conservées quelque part, et maintenant, on peut les consulter. À l'âge de donc en 1894, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans, il publie déjà un premier recueil de poèmes, avec notamment un poème à la mémoire de ce Yud Leib Gordon, qui s'appelle « Au lion mort », et quelque chose qui va s'appeler déjà « Shirei Israël ». Donc, il va participer également... il va aider Hadam à publier un de ses ouvrages principaux qui s'appelle La croisée des chemins, qui était un recueil d'articles. Et dès la création de l'Organisation sioniste mondiale, Biani comprend qu'il faut entrer dans ce mouvement d'une façon ou d'une autre, même s'il était parfois en désaccord avec Herzl sur la ligne politique. Mais malgré tout, il va entrer avec Ahadam dans le journal que Ahadam va créer, qui s'appelait Achiloar, qui est une des premières revues. Il commence à écrire en publiant des poèmes régulièrement. Et ensuite, il va également, dès 1897, publier un deuxième recueil de poèmes et s'installer à ce moment-là dans une ville qui, moi, me tient personnellement à cœur, puisque c'est la ville de naissance de ma mère. C'est une ville en Pologne qui s'appelle Sosnowiec, où d'ailleurs est née d'autres personnalités, comme par exemple le cardinal Lustiger, qui est également dans cette ville de Pologne, où il a travaillé pendant quelques années comme enseignant. Il enseignait les matières juives, il enseignait l'hébreu. Et sa langue, il a parlé en général yiddish, mais il écrivait déjà en hébreu et travaillait à ce qu'on peut appeler le texte, les textes fondateurs. Alors, je pense que tu vas nous lire un petit passage sur cette période où il était enseignant, où il nous parle un peu de ce qu'est l'étude juive.
D'enfance et de jeunesse, trop vite, il fut sevré. Son regard s'est éteint et ses joues ont pâli. Depuis 6 ans déjà, son visage est tourné vers ce mur ténébreux, vers cet obscur recoin, où il n'aperçoit plus un rayon de lumière, mais ses toiles d'araignée et ce mur décrépit. La faim et l'insomnie, un corps maigre et flétri, cela importe peu, il ne s'en soucie pas. Ne sait-il pas comment ses pères ont étudié? Ne sait-il pas déjà qu'un jour sa gloire viendra?
Alors effectivement, il y a un poème très connu qui s'appelle « L'assidu ». Donc c'est en fond ce qu'est l'étude juive, dont il dit que voilà, c'est ça qui a conservé le peuple juif, c'est l'étude. Et donc même lorsque c'est un des thèmes, je dirais, un des thèmes principaux de la Bialik, c'est de dire que finalement le judaïsme s'est maintenu grâce à tous ces étudiants qui étaient face à un mur, qui regardait, qui était en direction de Jérusalem, et qui en fait étudiait la Torah. Et donc c'est par cette étude qu'on est resté, que le peuple juif a pu se perdurer et a pu se maintenir. Et donc l'idée de l'éducation, qui était extrêmement chère à Ahadam, c'est le sionisme, je dirais, de Bialik, n'est pas un sionisme politique, c'est vraiment ce sionisme culturel d'éducation et de maintenir ce qui a maintenu le peuple juif tout au long de son histoire, à savoir l'étude.
Nous allons faire une petite pause musicale, si tu le permets, et nous revenons tout de suite.
היא יושבה לחלום וסורקה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה אומר לי מר ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא ויש לה בריאות והולכות הן רכים אך רחלה לי ואנוכי לרחל אומר לי מה ליבי היום הלילה אם רחלה איננה אני הנבא בערב כי יצא משעול הקמה ורחלה אין אימי, אין אימי הנשמה שיבולים, גבעולים ורחלה עשו שלומי וענו בי תאחר ומתי במקומי יושבה לחלום וסורקה שערה ועיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה אומר לי מה ליבי היום עליי רע אם רחלה איננה אני הנבא בערב היא יצר משעול הקמה ורחלה איני מי, איני מי הנשמה שיבולי, גיבולי ורחלה עשו שלומי ואנומי תאחר ומתי במקומי
Nous revenons avec la vie du grand poète Bialik.
Oui, donc en 1899, il va quitter Sosnowiec. Ma mère n'était pas encore née. Donc il envisage de. Donc il quitte et donc il va s'installer à Odessa, grande ville, une grande communauté juive, où il va signer des contrats pour publier d'autres livres de poésie et également. Travailler dans une association qui s'appelait Achinour, c'est-à-dire l'éducation, comme enseignant et comme co-directeur de deux écoles juives. Et il va commencer à travailler justement sur ce fameux livre sur la Haggadah, Sefer Haggadah, avec Ravnitsky. Et il va fonder une maison d'édition avec d'autres grands sionistes, donc Ravnitsky, Levinsky et Ben Sion, qui va s'appeler la maison d'édition Moria. Tout cela fait que il devient une personnalité presque incontournable. Et en 1902, Josef Klausner, qui était un grand historien, va déclarer Bialik poète national.
Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Bah, c'était un peu pour embêter les autres, je pense. Pour embêter les autres poètes et leur dire « Vous n'êtes pas les poètes, tandis que lui est poète national. » Bon, cela dit, Victor Hugo s'était proclamé lui-même poète national. Donc, Bialik était quand même relativement modeste par rapport, puisqu'il a attendu que ce soit d'autres qui le fassent. Mais il était quand même flatté, il n'a pas rejeté, il n'a pas dit non, non. Il a dit, il a accepté ce titre. À partir de 1903, bien évidemment, la situation dans la région, notamment en Ukraine, et dans la Biélorussie et en Russie, va se dégrader. Et il va y avoir d'importants pogroms, et notamment en 1903, pogrom terrible de Kishinev. Donc il a écrit plusieurs poèmes sur ce drame, sur cette grande tragédie, et notamment un texte qui est traduit soit par massacre, soit par tuerie, qui est probablement un des. Il y a eu plusieurs poèmes sur ce pogrom de Kishinev de 1903, et je crois que tu vas nous en lire.
Absolument.
Un, qui s'appelle Tuerie.
Tuerie. Cieux, implorez grâce pour moi. S'il y a en vous un Dieu et un chemin qui conduit à lui, un chemin que je n'ai pas trouvé, alors priez-vous pour moi. Mon cœur est mort, plus de prières sur mes lèvres, plus de force dans les bras, plus d'espoir. Jusqu'à quand ? Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Hola, bourreau, voici ma gorge, viens et tue. Abats-moi comme un chien. Toi, tu as un bras et un couteau, et moi, j'ai l'univers pour échafaud. Frappe à la tête, que le sang du meurtre, le sang de l'enfant et du vieillard gicle sur ta chemise et que jamais il ne s'efface. S'il y a une justice, qu'elle paraisse aussitôt. Mais si elle tarde, si elle n'éclate qu'après ma mort, après que moi, j'aurai été détruit, je veux que son trône s'écroule et que les cieux périssent dans le mal éternel. Quant à vous, scélérats, sustentez-vous de sang, allez et vivez de vos ignominies. Maudit soit celui qui dira vengeance. Une telle vengeance, la vengeance du sang d'un enfant, Satan ne l'a point inventé. Que le sang se creuse un chemin sous terre, qu'il sape et ronge et mine dans les ténèbres les fondements délabrés de l'univers.
Magnifique poème, qui fait partie d'une série de poèmes qui s'appelle Dans la ville du massacre, Ira Riga. Mm. C'est une, on pourrait dire, une espèce d'épopée sur cette période des pogroms de Kishinev. Il va donc comprendre à ce moment-là qu'il faut sans aucun doute quitter cette région. Il la quittera l'année suivante, en 1904, en acceptant le poste de directeur de la revue à Chiloar, à Varsovie. Mais comme dans le malheur des Juifs, il arrive aussi de bonnes choses, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Ira Yan, qui va être un peu sa maîtresse, qui était D'accord. une peintre, qui ensuite va vivre en Israël, en Palestine. Mais c'est de cette époque qu'il commence cette relation amoureuse en parallèle avec sa vie avec Mania à Verbourg. À partir de 1904, il commence à travailler sur ce fameux Sefer HaAgada et sur des commentaires de la Mishnah, dont il va au fond donner des commentaires, je dirais, plus littéraires de la Mishnah et moins des commentaires, je dirais, de caractère juridique ou halakhique. Petit à petit, se fâche avec les gens de Achiloar et va quitter à nouveau Varsovie et revenir à Odessa pour écrire d'autres textes d'ailleurs qui seront publiés plusieurs mois après. Malheureusement, il y a un nouveau pogrom qui fait 400 morts à Odessa et il va encore une fois quitter Odessa pour aller s'installer en Europe occidentale. Alors il commence à devenir connu. Et donc, il voyage, il fait de nombreux voyages, mais curieusement, il ne va pas en Palestine.
D'accord.
Donc, nous sommes déjà en 1907. Il a quitté Odessa, tout en ayant continué à publier des textes sur la littérature hébraïque, à la fois des commentaires, mais aussi des textes de poésie, mais aussi des commentaires, des articles. Il faisait aussi, disons, des articles sur la littérature en général. Et il va reprendre en 1907 la fameuse revue à Chiloar qu'il avait quittée et commence à être, je dirais, un intervenant dans le mouvement sioniste. Donc il va se rendre un peu partout, faire des conférences. Il y rencontre un certain nombre de gens. Il décide à ce moment-là d'immigrer en Palestine. Mais c'est une décision qui, pour l'instant, n'est pas suivie.
Pourquoi on le sait ?
Parce que il est occupé à faire des conférences. Donc, D'accord. il habite à Genève. Et puis, après, il va aller à Berlin. En 1908, il publie un nouveau recueil de poèmes qui sont illustrés par Ira Yan, donc sa maîtresse, qu'il a quitté plusieurs fois et qui se sont quittés plusieurs fois. Et d'ailleurs, il a écrit un poème qui est très connu qui s'appelle « Puisque tu me quittes ». Et ça ressemble un peu à du Jacques Brel, mais c'est un poème qui est très très connu, on est en Israël. Mais voilà, ce recueil de poèmes va être publié à de nombreuses reprises, il y a eu de nombreuses éditions. Et en mai 1908, va paraître la première partie de ce qu'on appelle le Sefer HaAgada. Sefer HaAgada, c'est au fond un recueil d'un certain nombre de midrashim, d'histoires, qui permettent de comprendre la halakha et qui sont issus des deux Talmud, Talmud de Jérusalem et Talmud de Babylone. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer ce qu'il dit dans l'introduction de ce Sefer HaAgada.
Absolument. La halakha a un visage austère. La Haggadah, un visage souriant. La première est sévère, rigoureuse, dure comme l'acier, c'est l'intransigeance même. La seconde est conciliante, bienveillante, plus douce que l'huile, c'est l'indulgence même. Celle-là est l'écorce, le corps, l'acte. Celle-ci, l'intériorité, l'âme, l'intention. Là, nous trouvons une orthodoxie figée, un devoir, un esclavage. Et ici, un perpétuel renouvellement, la liberté, la tolérance. Voilà ce que sont Halakha et Haggadah dans la vie. Du point de vue de la littérature, j'ajouterais « là est le territoire de la prose, d'une langue rigide et immuable, d'une langue d'un gris uniforme, le règne de la raison, et ici la fraîcheur de la poésie, d'une langue fluide et variée, riche en couleurs, le règne du sentiment, le tumulte du cœur dans ses aspirations, dans sa course éperdue vers l'objet de son désir. Voilà la Haggadah. Le point d'ancrage, la satisfaction de l'exigence et l'apaisement, voilà la Halakha. »
Oui, donc on comprend bien la volonté d'introduire au fond les sources juives dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le patrimoine littéraire, qui va être ensuite enseigné dans les écoles et dans les établissements d'enseignement juif. Et donc, ce Sefer Haggadah, ça a servi de base à cet enseignement du judaïsme tel qu'il a été étudié dans les écoles en Israël par la suite. Et ce n'est qu'après cette publication qu'il va envisager sa première visite en Palestine. Donc,
on est à quelle
grand
époque?
Sioniste, 1909, première visite. D'accord. De Bialik en Palestine. Il vient avec Ravnitsky, il est accueilli de façon triomphale. Selon certains textes, il revoit son ami Irayan. Et en parallèle, il va démissionner de Hachiloar parce qu'il ne s'entend plus avec Klausner, qui pourtant l'avait désigné comme poète national. Et puis il fonde un certain nombre de maisons d'édition, de bibliothèques. Mais il retourne encore en Ukraine et va s'installer à côté d'Odessa. Non pas dans la ville, mais dans une petite bourgade à côté. Et il continuera à publier un certain nombre de textes et des traductions. Et parce qu'il pense que justement, pour pouvoir développer la littérature en Israël, il faut traduire en hébreu certains textes de la littérature mondiale en hébreu.
D'accord.
Et donc, il va traduire notamment Don Quichotte, il va traduire d'autres auteurs, Guillaume Tell, toutes sortes de textes de la littérature générale en hébreu. En 1913, il participe aux congressionnistes et il y donne d'ailleurs une conférence qui s'appelle le livre hébraïque, où il explique sa théorie de la nécessité de faire une compilation des œuvres hébraïques classiques et de l'insérer dans ce qui sera le cursus ou le canon, disons, de la littérature hébraïque moderne. Il est déjà un petit peu malade, il commence déjà à avoir certains soucis de santé. Et en 1914, à la déclaration de la guerre, il se trouve en Autriche. Mais comme il est ressortissant russe, il est arrêté et il est obligé de quitter l'Autriche. Et en passant par la Roumanie, il va retourner en Ukraine. Il restera là-bas pendant pratiquement toute la guerre et toute la Première Guerre mondiale. Et ce n'est qu'au lendemain, dans 1917, après la première révolution russe, que il va envisager de quitter cette région pour aller, a priori, en Palestine. Mais la première tentative qu'il va faire pour essayer de quitter, ce sera seulement en 1920. Donc, il est à Moscou, il attend son visa. Il va créer un groupe d'écrivains à Moscou pour essayer de quitter l'Union soviétique. Il sera d'ailleurs aidé, pour avoir ce visa de sortie de l'Union soviétique, il sera aidé par Maxim Gorki, qui était proche des soviétiques. Dans un premier temps, il va s'installer en Turquie, à Constantinople, en passant par Berlin, parce qu'il pense qu'à Berlin, où se trouvaient beaucoup de dirigeants sionistes à l'époque, il a un rôle à jouer, et donc il va y rencontrer des écrivains, et ce qui fait que son arrivée en fait, en Palestine, n'aura lieu qu'en 1924.
D'accord.
De 1920 à 1924, il est déjà un petit peu malade. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance d'Agnon, qu'il rencontre aussi en Allemagne, à Hambourg. Non pas à Hambourg, mais à Hambourg. Bialik a déjà 50 ans. À l'approche de ses 50 ans, il estime qu'il est temps pour lui d'aller en Palestine. Et les dirigeants du mouvement sioniste en Palestine lui proposent de lui créer une maison, de bâtir une maison pour lui, afin de transformer cette maison en espèce de maison des écrivains, et donc une espèce de salon littéraire. Il va quitter l'Allemagne pour la Palestine et arrivera... je pense en mars 1924 à Tel Aviv, où il reçoit un accueil triomphal par Ben Gurion qui l'accueille, et à l'angle de la rue S et de la rue Allenby, il s'installe en attendant la construction de sa maison dans une rue qui porte aujourd'hui son nom, où elle se trouve. Donc il retourne un peu, il voyage beaucoup, il va faire des conférences, il travaille à une nouvelle édition de la Haggadah. Il fait la connaissance d'un nouveau grand poète qui est plus jeune que lui, mais qui est peut-être celui qui a succédé un peu dans la dans la littérature hébraïque à Bialik, qui est le poète Abraham Shlonsky.
D'accord.
1925, c'est l'inauguration de l'université hébraïque où il prononce l'un des discours d'inauguration et en même temps, il inaugure sa maison, 1925, la maison Bialik, qui va devenir, disons, le rendez-vous de la culture où il y tient chaque semaine une sorte de salon littéraire où viennent des écrivains et discutent de toutes sortes de sujets à la fois littéraires mais aussi politiques et autres. Mais à partir de 1926, il va recommencer à voyager. Il va partir notamment aux États-Unis à la demande de Chaim Weizmann pour essayer de convaincre les Juifs d'Amérique de soutenir le mouvement sioniste. Et puis il retournera aussi à Londres, il va aller à Paris, il revient ensuite en Israël. En 1927, meurt Achadam, qui est très proche, il est très affecté par cette disparition. Pour lui, Radam était son, je dirais, presque son alter ego, c'est quelqu'un qui était très proche. Et il tombe malade d'une maladie rénale qui va finalement être assez tragique pour lui parce que ça va l'obliger à l'époque à faire un certain nombre de séjours médicaux en Europe. Il va donc consacrer sa vie à la fois à sa santé, où il sera obligé de faire des voyages pour aller en Europe se faire soigner, mais également au développement de ce qu'on pourrait appeler une vie culturelle en Israël. Donc sa maison est rapidement transformée en bibliothèque, en salon. Lui-même, il n'aime pas tellement la maison dans laquelle il habite. Et donc, lorsque le maire de Ramat Gan lui propose d'aller habiter dans une ville où il y a beaucoup plus d'espaces verts et de jardins, il décide de sous-louer sa maison et d'ensuite aller habiter à Ramat Gan.
Un homme pratique.
Voilà, il y a un sens assez pratique des choses. En 1929, évidemment, il sillonne le pays, il rencontre des gens dans les kibboutzim, il fait une, disons, connaissance avec, je dirais, toutes les régions d'Israël qu'il connaissait très peu. C'est quelqu'un de très tel-avivien qui ne bougeait pas beaucoup. Il commence à voyager à partir de 1928. On le voit notamment dans les kibboutzim, en Galilée, faire des conférences et être reçu. Et il décide en 1929 de créer la première grande revue littéraire. En fait, il crée ce qu'on appelle aussi l'Union des écrivains israéliens, l'Union des écrivains hébraïques. Il crée un hebdomadaire littéraire qui va s'appeler Moznaim. Mmh. Moznaim, c'est une balance. Alors, ses problèmes de santé continuent, bien évidemment. Il est à chaque fois obligé de partir, de faire des cures, et il se rend compte que la situation en Palestine se dégrade, notamment avec les émeutes de 1929 en Palestine, qu'il est très affecté par ça. Il se rend compte de cette difficulté qu'il y a avec les Arabes de Palestine. Donc, il écrit à plusieurs reprises des textes assez critiques contre l'action qui est menée par les dirigeants sionistes.
D'accord.
Parce qu'il pense que, d'une certaine façon, il ne voit pas la réalité et qu'il faut être beaucoup plus ferme dans la façon de réagir. En février 1931, il se trouve à Londres et là, il fait la connaissance de Chaya Fickholz. Brève relation amoureuse, d'après les biographes, encore une fois, qui n'a été révélée que 50 ans après. Ce n'est qu'en 1980 qu'une chercheuse israélienne, je crois que c'était Ziva Shamir, professeure de littérature, a découvert en fait cette brève amour de passage entre Bialik et Chaya Fickholz à Londres en 1931. Ensuite, il se rend à Paris. Donc, il voyage beaucoup et quelque part, les gens en Israël considèrent que finalement, il ne participe plus à la vie littéraire, au développement de cette vie littéraire et culturelle en Palestine. Mais il écrit encore de très très beaux textes et notamment un très beau texte que tu vas nous lire qui fait partie aussi des canons de la chanson israélienne parce que ça a été repris par plusieurs chanteurs qui s'appelle Prends-moi sous tes ailes.
Voilà, prends-moi sous tes ailes. Prends-moi, oh prends-moi sous tes ailes et sois pour moi mère et sœur. Ton giron pour ma tête un refuge, un nid pour mes prières. À l'heure de grâce, au crépuscule, je te dirai le fond de ma tristesse. On dit que la jeunesse existe, où donc est-elle ma jeunesse? Et encore un secret je te dévoilerai, dans la flamme mon âme s'est consumée. On dit que l'amour existe, qu'appelle-t-on aimer? Les étoiles m'ont trahi, j'avais un rêve, il s'est enfui, et maintenant je n'ai plus rien au monde. Prends-moi, oh prends-moi sous tes ailes, sois pour moi mère et sœur, ton giron pour ma tête un refuge, un nid pour mes prières.
Alors on ne sait pas de qui il parle. Hein. Ça, c'est pas,
en même temps, il y a pas mal de gens qui pourraient être concernés, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est pas,
Et quand je dis gens, j'entends gente.
Voilà.
Et... nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après.
והיילי אם ואחות והיחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ויחיקך מקלט ראשי כאן תפילותיי הנידחות ותרחמים בין השמשות שחיב האגל לחסוד יסורי אומרים יש בעולם נאורים נפשי נשרפה בלהבה אומרים אהבה יש בעולם מה זו אין לי כלום olam. En li davar ata
Michael, où a-t-il passé les dernières années de sa vie ?
Alors, à l'âge de... Il est décédé, donc, comme je l'ai dit, en 1934, à Vienne. En 1933, il a donc 60 ans. Mm-hmm. Il est en Palestine parce qu'il fait des allers-retours. En 1932, il avait été seulement 4 mois en Palestine et 8 mois à l'étranger entre les conférences et les cures qu'il faisait. Son anniversaire de 60 ans, c'est une fête nationale. C'est fêté et on chante la tikva et un certain nombre de poèmes et de chansons qui ont été reprises par les textes de Bialy, qui ont republié en avril 1933 les poèmes et refrains pour enfants, qui vont servir un peu de... C'est un peu le programme, je dirais. Mm-hmm. C'est le programme de chansons dans tous les ganim en Israël, en Palestine. En juin, il y a l'assassinat d'Arlozorov. L'assassinat d'Arlozorov, c'est un grand choc. On en a déjà parlé dans une autre émission, qui plonge le pays dans une consternation, qui crée une crise au sein du mouvement sioniste, notamment avec les révisionnistes. Jabotinsky et Bialy étaient proches. Ils vont se disputer. Il y a un certain nombre de difficultés au sein du mouvement sioniste. Et à ce moment-là, il tombe malade en août 1933 et doit quitter Israël pour se rendre dans un hôpital de Vienne. Et même s'il revient en Palestine en octobre, se trouve dans une situation financière difficile et donc doit carrément quitter sa maison. Il refuse de voir les gens, il s'installe donc, comme j'ai dit, à Ramat Gan et va écrire encore quelques poèmes. Mais en janvier 1934, il va être obligé encore une fois de quitter Israël. En avril également, il doit repartir.
Pourquoi ?
Parce qu'il a des crises de ce qu'on appelle de coliques néphrétiques de plus en plus douloureuses. Et on lui propose une intervention chirurgicale. Il va donc partir en juin 1934 à Vienne. Il est opéré quelques jours plus tard. Mais il va décéder d'un infarctus suite à cette opération, apparemment, dont il n'a pas suivi, enfin, choc opératoire, apparemment, il n'a pas pu supporter ce choc. Et le 16 juillet, son corps est ramené en Israël. C'est pratiquement des funérailles nationales. Bialy est enterré au cimetière de Tel Aviv, aux côtés d'Achadam, selon sa volonté. Et. Il va devenir un peu une icône, quoi. Ça va devenir, il y a tout un mythe bialique qui va s'instaurer. On va continuer à entretenir ce mythe.
Tu peux expliquer ça ? Pourquoi ? Pourquoi déjà il a été tout de suite considéré comme le poète national et pourquoi ensuite ce mythe a été encore renforcé ?
Oui, je crois qu'il y a une explication qui tient à la fois à la personnalité de Bialy, qui était quelqu'un qui était non seulement un poète, mais aussi quelqu'un d'impliqué, d'engagé dans le développement d'une vie littéraire. Quelqu'un qui avait énormément étudié les textes d'Achadam et qui avait... Achadam était quelqu'un d'assez intériorisé, d'assez, je dirais, peut-être même asocial, peut-être, alors que Bialy avait un don, justement, de pouvoir rassembler autour de lui des écrivains, des hommes, des intellectuels, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il a compris qu'il fallait agir aussi, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement écrire des textes, des poésies, des poèmes, mais qu'il fallait aussi créer une vie littéraire. Il fallait qu'il y ait une espèce d'animation culturelle, qu'il fallait que toute cette, je dirais, ces rencontres entre l'ancien, le moderne, ces rencontres entre les traditionalistes, les gens qui étaient imprégnés de culture hébraïque et les gens qui justement cherchaient la modernité, il fallait essayer de les mettre ensemble. Et il avait ce don, cette capacité à être à la fois un intellectuel moderne, mais aussi quelqu'un qui venait du monde des yeshivot et qui est capable de réunir ces deux mondes. Mmh. Donc, et d'en faire aussi un certain nombre de projets. Donc il a créé une imprimerie, il a créé une maison d'édition, il a créé une revue. Ce n'était pas seulement un écrivain, c'était aussi, on va dire, un homme d'action, pas au sens politique, mais c'était quelqu'un qui était, on pourrait dire, un agitateur d'idées. C'était quelqu'un qui participait à des débats, qui avait parfois qui a eu des discours très critiques à l'égard de certains dirigeants, notamment il y a des textes sur Weizmann qui sont assez durs, qui sont sur des dirigeants politiques. Donc il avait un regard, il était mêlé, il était respecté. Il a su créer son mythe d'une certaine façon. Il a su s'entourer de gens qui, dans les travaux qu'il a accomplis, notamment ce livre sur la Haggadah ou d'autres livres sur la littérature, il a su créer une vie littéraire, culturel dans les années 30. Tel Aviv, quand on dit Bialik, poète de Tel Aviv, bien qu'il y ait vécu peu de temps, en peu de temps, il a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas réussi à faire pendant très longtemps, c'est-à-dire à réunir ce cercle. Il faut savoir, quand on lit les témoignages de l'époque, que lorsqu'il faisait ses salons littéraires, une fois par semaine, il y avait foule. C'est-à-dire on refusait du monde. Il ne s'agissait pas de 5 personnes qui discutaient dans un salon. C'était des centaines de gens qui voulaient venir. Et donc, la maison était bondée. Il y avait énormément de... Encore une fois, on était à une époque où les gens lisaient la presse. Donc, chaque opinion, chaque mot de Bialik était repris. Il y avait des disputes. Il y avait des fâcheries. Il y avait des jalousies. Il y avait des polémiques. Bialik n'était pas seulement un poète, c'était aussi quelqu'un qui pouvait écrire des pamphlets. Mmh. Et donc, il a laissé, et ça, on ne peut pas lui enlever à quelqu'un, il a laissé des textes qui sont, jusqu'à aujourd'hui, des textes extrêmement modernes, qui font partie, qui ont été reprises, notamment, par tous les grands chanteurs israéliens. Il n'y a pas un chanteur israélien, dans les classiques, qui n'a pas, à un moment ou un autre, repris ou mis en chanson un texte de Bialik, parce que ces textes, justement, sont très modernes. Ça parle d'amour, ça parle de problèmes que peuvent avoir dans la vie quotidienne des gens. Il y a des poèmes romantiques, il y a des poèmes plus épiques, comme ceux que tu as lus. Mmh. Il y a des poèmes qui sont liés, justement, au sionisme. Il y a des poèmes qui sont liés à la tradition juive. Il y a des textes qui, évidemment... servent, de canon pour la culture israélienne moderne. Et ça, c'est extrêmement important parce que un pays nouveau a besoin d'hommes, ou avait besoin, disons, d'hommes comme Bialik. Il y en a eu d'autres, on en reparlera, peut-être Agnon. Donc des gens qui ont finalement créé ces fondements, ont posé les fondements de ce qu'on appelle la culture hébraïque moderne. Alors après, il y a eu d'autres écrivains, il y a eu d'autres poètes, mais celui qui a été le premier poète moderne, en hébreu, c'est Bialik. Premier poète moderne. Alors évidemment, avant lui, il y a eu Yud Laib Gordon. Mais aujourd'hui, les poèmes de Yud Laib Gordon sont des poèmes qui ont l'air d'être un petit peu obsolètes. Mm-hmm. Bialik a eu il avait à la fois cette langue simple qui peut parler à tout le monde et aussi cette capacité d'y introduire des thèmes qui sont chers à tout être humain comme l'amour, la haine, la peur et d'autres sujets qui animent notre vie. Donc quelque part, il y a quelque chose de très humain chez Bialik. Et d'un autre côté, Bialik, dans sa personnalité, avait quelque chose d'un peu froid, d'un peu distant, c'est très curieux quand on lit par exemple les réponses de Bialik aux lettres d'amour qu'il reçoit de ses différentes maîtresses.
Elles sont froides.
Ce sont des lettres très, comme ça, distantes, un peu Mais peut-être que c'est justement c'est ça qui lui donne cette image, peut-être, de quelqu'un un petit peu au-dessus, quoi, sur une espèce de piédestal, dans le sens positif, non pas péjoratif. Il est sur son piédestal, mm-hmm. Il est quelque part une personnalité. C'est pour ça que je dis qu'il a un côté un petit peu hugolien, c'est-à-dire de quelqu'un qui a su, volontairement ou involontairement, se placer peut-être au-dessus.
Et créer son propre mythe, presque.
Voilà.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF. Et nous nous retrouvons très bientôt. Nous allons nous quitter en musique. Les Traot.
רציתי להודות מזמן באורך החם נבטו שיריי קל אני תבט לי מתימן אל הגיא כמו פרש אבוד סובב בגן ובידי פוחים שני שושנים האחד אדום שני לבן שר אני איתך פתאום זה כמו חלום זה כמו חלום שר שאלות נפתח לשיר איתך לשיר איתך
הלבנה אשר תלויה מעל משירה עכשיו את מבטה היא שלך הלילה אל תשאל קח אותה טוב לשיר איתך פתאום לרקום חלום לרקום חלום שני קולות והבטחה
לשיר איתך
לשיר איתך
עד הבוקר בסירה יחד לחתור ולקוות מחכים על מים למחר שיבוא
טוב לשיר איתך פתאום
Come hallo
Shnei kolot vehavtah
La shir itach
La shir itach יבוא